don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Ruquigny, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en ondes ce matin par Nicolas Delmas. On va poursuivre notre série consacrée aux animaux, plaidoyer pour un rugissement, c'est le titre de notre série cette semaine. Et aujourd'hui, droit non humain, extension du domaine de la lutte.
Dans les maternités françaises, les truies passent une grande partie de leur gestation dans des cages où elles ne peuvent pas se retourner. Elles mettent au monde des petits qu'elles ne peuvent ni sentir ni lécher comme elles le voudraient.
Quand on a accès aux abattoirs, quand on a accès aux élevages, bien souvent on se rend compte que les animaux sont dans des conditions terribles, mis à mort de façon absolument horrible. On ne peut pas préjuger de ce qui se passe sur les autres abattoirs, mais on peut en avoir une bonne idée avec cet aperçu aujourd'hui sur l'abattoir d'Alès.
J'ai vu les images, effectivement, qui sont, pour nous éleveurs qui élevons nos animaux avec le plus grand soin, qui sont complètement intolérables, inacceptables, et qui jettent aujourd'hui l'opprobre sur toute une filière.
On a demandé une fermeture relativement provisoire, pas trop longue, parce que qui pourrait mettre en danger l'existence même de l'outil.
On choisit d'élever des bêtes. On sait qu'elles iront pour la consommation humaine et on sait qu'elles finiront dans un abattoir. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est que ces bêtes-là meurent dans des conditions de souffrance et de non-dignité.
Récemment, plusieurs vidéos dénonçant les pratiques de certains abattoirs ont provoqué une vive émotion dans la société, comme celle qui avait cours à l'abattoir de Mauléon dans les Pyrénées-Atlantiques, révélée par des images tournées par un membre de l'association L214 et remettant sur le devant de la scène la maltraitance animale. Après les mois suscités, les politiques ont réagi puisque le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, avait alors annoncé une vague d'inspection dans les abattoirs de France. Mais au-delà des annonces, on va se demander ce matin si ces scandales permettent des avancées dans le droit animalier. En France, il y a 2 ans presque, l'Assemblée nationale avait voté un amendement reconnaissant aux animaux la qualité d'être vivant doué de sensibilité. Il ne s'agissait pas véritablement d'un nouveau statut juridique, nos amis des bêtes restant soumis au régime des biens corporels dans le Code civil. Alors qu'est-ce que ce nouveau texte a changé concrètement, et puis au-delà de la France, quelles sont les avancées à l'échelle de l'Union européenne et comment se répercutent-elles dans les différents pays membres? On posera tout à l'heure la question à Olivier Lebeau, qui nous éclairera justement sur les avancées du droit européen. Et puis au-delà de la question purement juridique, quels sont les développements philosophiques contemporains sur le droit animalier? On retrouvera notamment Nicolas Delon, qui est professeur à l'université de New York, qui nous proposera donc son regard, son analyse depuis l'autre rive de l'Atlantique, puisqu'il est à New York. Notre invité ce matin pour nous accompagner, c'est une philosophe, c'est Florence Burga. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Florence Burga. Vous êtes directrice de recherche à l'INRA et puis co-rédactrice en chef de la revue semestrielle du droit animalier. Et puis co-auteur avec Jean-Pierre Marguénaud et Jacques Leroy de cet ouvrage, Le droit animalier, qui vient de paraître au PUF. Alors peut-être un mot d'abord sur l'actualité, Florence Burga, cette nouvelle vague de scandales dans les abattoirs de France qui remet dans la lumière les conditions dans lesquelles certaines sociétés mettent à mort les animaux, des conditions malheureusement connues depuis longtemps. Alors je le disais, c'est vrai que les images ont provoqué l'émoi, la colère, mais malheureusement elles n'ont rien de très nouveau. Que vous inspire cette répétition justement d'images absolument insoutenables et surtout les effets peut-être politiques et législatifs qu'elles produisent? On a quand même l'impression que ces scandales n'entraînent pas de changements très profonds. Il y a des changements bien sûr, mais c'est extrêmement lent. Qu'est-ce que ça vous inspire, Florence Burga?
Oui, les changements sont extrêmement lents. On a tout de même le sentiment que personne ne veut renoncer à l'alimentation carnée, qui serait évidemment la voie la plus sûre d'éviter aux animaux ce qui a été montré. Parce que il faut bien comprendre que dans le niveau de consommation carnée auquel nous sommes arrivés, qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité, implique de tuer une multitude d'animaux à la chaîne, et que par conséquent l'attention qu'il faudrait porter à chacun des animaux qui va être mis à mort demanderait du temps, demanderait des aménagements, doublerait évidemment le temps passé à cette activité de mise à mort. Donc on a le sentiment qu'il y a deux types de réactions, si vous voulez. Il y a ceux qui estiment que c'est bien évidemment l'activité elle-même qui engendre ces traitements, mettre à mort en série, qui est comme si c'était un travail comme un autre. Et puis de l'autre côté, les éleveurs, les politiques qui s'inquiètent d'un affaiblissement nouveau porté à la filière de la viande.
Est-ce que c'est seulement ça, Florence Burga, que l'on n'arrive pas à faire renoncer à l'alimentation carnée? Parce que finalement, si l'inaction prédomine en la matière, est-ce que c'est pas parce que, d'abord et avant tout, tout le monde a parfaitement intégré que, en réalité, au-delà de la question de la souffrance animale, qui bien sûr est là, c'est aussi la question de notre modèle productiviste qui est totalement débridé et qui est aussi en jeu. On est dans un monde où, évidemment, la filière de la viande, mais comme toutes les autres, doit être rentable. Introduire de l'éthique et de la morale, eh bien, ça baisserait la productivité, ça altérerait la compétitivité. Et finalement, derrière la question animale, c'est aussi la question de notre modèle néolibéral qui est en jeu. Est-ce que c'est pas aussi ça le frein ?
Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison de le souligner. L'activité d'exploitation des animaux pour la consommation fait partie de tout un mouvement de développement économique néolibéral. Mais il faut bien avoir à l'esprit que si 7 milliards d'humains veulent manger de la viande, nous ne pouvons pas à la fois vouloir cela et incriminer le système industriel. Donc je crois que les personnes qui voudraient en venir à un élevage plus respectueux, je mets ça entre guillemets parce que je suis pas certaine que ce mot soit bienvenu, des animaux, de leurs conditions de vie et de mise à mort, cela implique un quasi-renoncement à l'alimentation carnée, étant donné le nombre d'humains que nous sommes. Voilà.
Mais dans ce cas précis, au fond, qu'est-ce qui fait le scandale ? Est-ce que c'est parce que le droit animalier n'est pas adapté ? Ou pas bien appliqué, on le verra, ou est-ce que c'est parce que finalement les cadences imposées dans la filière rendent absolument inexorables ces dérapages ?
Alors je penche plutôt pour le deuxième point que vous soulevez, ça rend les dérapages inexorables parce qu'il faut aller très vite, que souvent le matériel ne marche pas. Il est important que L214 ait filmé notamment de tout petits abattoirs, parce qu'on avait tendance à incriminer précisément les grosses unités avec des cadences qui ne peuvent pas être réduites. La première vidéo, je crois, se déroulait dans un abattoir où il y avait simplement 3 employés. Donc nous n'avions pas ce problème de cadence et cependant les actes de cruauté étaient commis. Donc on peut se demander si ça n'est pas cette activité de mise à mort répétée tous les jours pendant des années et des années qui engendre ce type de conduite. Ça n'est pas un travail comme un autre, bien évidemment.
Encore un tout petit mot sur ce scandale et puis ensuite on passera à la réforme de février 2015 que j'évoquais dans mon chapeau. Après cette série de vidéos, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a ordonné la fermeture, en tout cas la suspension immédiate des activités de cet abattoir. Et puis il a ordonné aussi des inspections dans tous les abattoirs du pays dans un délai d'un mois. Que vous inspire cette réaction ? Est-ce qu'elle vous semble à la hauteur ? Et puis plus généralement, quel regard vous portez justement sur la réponse politique à cette maltraitance animale dans l'industrie agroalimentaire en général ?
Alors il est tout de même un peu, si vous voulez, un peu scandaleux de penser que le monde politique, mais aussi les éleveurs, attendent ces vidéos pour réagir. Quand les éleveurs se disent tout à fait étonnés, on peut quand même être surpris, si vous voulez, d'un discours soi-disant portant sur leur attention aux animaux, le soin, etc. Alors qu'ils ne se sont visiblement jamais préoccupés de savoir comment les animaux étaient abattus. Il faut que ce soit une association qui montre les choses. Ça, c'est tout de même un petit peu curieux. Et j'aurai la même réaction concernant le ministre de l'Agriculture et tout son ministère. Ça n'est pas en principe aux associations de défense des animaux de révéler le fait que la réglementation n'est pas appliquée. Ça serait au service vétérinaire. Il y a un bureau de la protection animale au ministère de l'Agriculture qui, à l'évidence, ne fait pas son travail.
Alors Florence Burga, février 2015, et on a une réforme du Code civil qui reconnaît aux animaux la qualité d'être vivants doués de sensibilité. Jusqu'à présent, le Code civil les considérait comme des biens meublés. Alors certains y ont vu une véritable avancée, d'autres sont beaucoup plus critiques, considérant que finalement il n'y a pas là de révolution puisque l'animal n'a toujours pas de statut juridique. Votre regard à vous sur cette réforme et qu'est-ce qu'elle change très concrètement ? Dans votre livre, vous parlez de révolution théorique.
Oui, révolution théorique. En effet, le mot théorique est important. Alors, en effet, ce texte...
Mais le mot de révolution aussi.
Mais le mot de révolution aussi. Ce texte n'a pas mis un terme à quoi que ce soit. Ça n'est pas une loi qui décidait de mettre un terme à une catégorie d'usage des animaux, l'abattage, l'expérimentation. Il s'agissait simplement, dans le pilier juridique qu'est le Code civil, de préciser cette mention qui existe déjà depuis 1996 dans le Code rural, qui reconnaissait déjà la sensibilité aux animaux. Mais donc, de placer cette mention dans le Code civil, c'est important. Pourquoi ? Parce que le Code civil, avant 7 février 2015, définissait uniquement les animaux par leur usage. Ce sont des biens meubles, c'est-à-dire qui peuvent se déplacer par eux-mêmes. Sans donc porter du tout une attention à ce que sont les animaux en eux-mêmes. Donc la définition était purement extrinsèque. Avec cette modification du Code civil, le législateur s'est attaché à une qualité inhérente aux animaux, le fait qu'ils sont vivants et doués de sensibilité. Cependant, en effet, il précise qu'ils sont soumis au régime des biens, ce qui, dans l'écriture, montre qu'ils ne sont pas, de fait, par nature, destinés à être des biens. Qu'il y a donc là, d'une certaine manière, un forçage qui consiste à les soumettre au régime des biens.
Donc, c'est-à-dire qu'ils restent des objets de droit, alors que, d'une certaine manière, avec cette évolution, on en fait, même s'il n'y a pas le statut qui va avec, mais on en fait des sujets de droit.
Exactement. Et je crois que c'est ça qui est très important, qu'il est très important de souligner, c'est la contradiction qui est en train de travailler le droit animalier, c'est-à-dire à la fois un traitement réservé aux animaux qui est celui des biens. On peut en disposer de la façon la plus absolue, hein, dit le droit dans une formule très forte, la plus absolue, puisqu'on peut les mettre à mort, utiliser les petits, etc. Et dans le même temps, le législateur, comme de façon presque parallèle, reconnaît aux animaux, enfin réaffirme cette qualité de sensibilité, réaffirme que les animaux sont non seulement sujets à la douleur, mais aussi à la souffrance, à l'angoisse, à la détresse, dans la directive européenne 2010. Donc, d'une certaine manière, le législateur prépare le terrain pour que les animaux soient un jour extraits, précisément, ne soient plus soumis au régime des biens. Il y a une contradiction.
Vous parliez de droit animalier, par ailleurs, c'est le titre de votre ouvrage. Vous établissez, vous, une différence entre droit animalier et droit des animaux. Vous dites même que, d'une certaine façon, ils s'opposent totalement. Vous pouvez nous expliquer un peu cette distinction ?
Oui, cette distinction est importante pour les auditeurs, pour comprendre bien de quoi nous parlons. Ce que nous appelons droit animalier, et qui est donc le nom aussi de la revue semestrielle de droit animalier, désigne l'ensemble des réglementations actuellement en vigueur et des décisions des tribunaux concernant les animaux. Donc il s'agit, la plupart du temps, de réglementations qui décrivent la façon dont les humains sont autorisés à mettre à mort les animaux et de quelle manière. Le droit animalier, à l'exception des 2 ou 3 articles dans le Code pénal, destine massivement les animaux à la violence et à la mise à mort, et le législateur réglemente ces opérations, qu'il s'agisse de la chasse, de l'expérimentation, de la boucherie. Les droits des animaux, c'est une notion philosophique, en particulier de philosophie morale ou de philosophie du droit, qui s'interroge sur les fondements du droit, et à partir de cette interrogation, montre en quel sens la découverte des fondements les plus larges du droit inclut aussi les animaux, oui, précisément sur la sensibilité.
Oui, parce que vous l'inscrivez dans une filiation plus longue, et notamment voilà. Du droit naturel de Rousseau.
Oui. Ouais.
Dans votre livre, faisons un tout petit peu d'histoire, Florence Burga. Vous faites remonter le droit animalier justement à 1850, c'est l'année de la loi Gramont. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que dit le texte et pourquoi est-ce que vous considérez que finalement on a là l'émergence de ce droit animalier ?
Alors c'est en France le premier texte de loi protecteur des animaux. Alors sa portée est extrêmement restreinte puisqu'il s'agit de punir de quelques francs les auteurs de mauvais traitements exercés envers des animaux domestiques et en public.
Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être d'un à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques.
Voilà, donc la catégorie à laquelle s'appliquent les animaux est restreinte. On ne parle que de mauvais traitements. Et troisième point, le plus important peut-être, tout cela doit avoir été commis en public. Et depuis le XVIIIe siècle, parce que c'est une des grandes idées de Kant, il n'est pas tolérable de laisser les humains se livrer à des actes de cruauté contre les animaux en public, précisément parce que, dit Kant, cela émousse la disposition morale la plus utile aux bonnes relations interhumaines, c'est-à-dire la capacité à l'empathie, la pitié, la compassion. Donc, on peut considérer que le texte de 1850, tel qu'il a été voté, ne protège pas les animaux pour eux-mêmes, ne protège pas les intérêts des animaux, mais protège plutôt la sensibilité du public.
Et puis, par ailleurs, il concerne les animaux domestiques.
Il ne concerne que les animaux domestiques.
Au départ, le texte ne concerne pas les corridas. Mais finalement, la tauromachie va rentrer dans ce cadre un petit peu plus tard, presque un peu plus de 30 ans plus tard, en 1884, avant d'être retirée sous la pression populaire.
Alors la corrida, il y a le cas effectivement de la corrida est complexe parce que le taureau de corrida peut être considéré comme un animal domestique, ça n'est pas un animal sauvage, et donc les corridas devraient tomber sous le coup de la loi. Or en 1951, le législateur prévoit une dérogation pour les combats de coqs et les courses de taureaux, afin que ces jeux cruels soient ne tombent pas sous le coup de la répression des mauvais traitements et des actes de cruauté.
On va parler de l'Europe dans un instant, Florence Burga. C'est intéressant parce que la question de la tauromachie, elle avait été évacuée justement des négociations lors de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à l'Europe. On avait évacué cette question de la tauromachie.
Oui, je ne suis pas étonnée parce qu'il y a évidemment, chaque pays fait pression pour conserver ce qu'il appelle ses traditions folkloriques. Cependant, la Catalogne, ouais, voilà, vient d'interdire la corrida et de faire un grand pas en avant du reste en direction de la cause animale.
On en reparlera notamment jeudi à ce même micro. Animaux, plaidoyer pour un rugissement, droit non humain, extension du domaine de la lutte. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde avec Florence Burga.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Monsieur le commissaire, la stratégie 2012-2015 se termine sur un bilan très mitigé. Il semblerait que votre commission ne propose pas pour la période 2016-2020 de nouvelles mesures, une nouvelle stratégie, et vous nous parlez là d'organiser un grand sondage. Ça serait totalement incompréhensible à un moment où votre commission négocie le traité transatlantique. Et que donc nous allons parler des conditions d'élevage intensif qui se passent sous Atlantique, que nous ne légiférions pas sur cette question essentielle. L'univers concentrationnel dans lequel les animaux sont enfermés dans des conditions de captivité insupportables ne doit pas être toléré en Europe. Ces méthodes qui sont importées et que l'on voit maintenant en France mises en œuvre doivent être interdite. Donc je vous le demande, monsieur le commissaire, les citoyens sont en droit de se demander si on défend les grands acteurs industriels ou les groupes agroalimentaires ou si l'on veut protéger et les animaux et la santé humaine.
Et oui, les questions des négociations sur le fameux traité transatlantique touchent aussi à cette question du droit animal. On entendait l'eurodéputé Pascal Durand d'Europe Écologie Les Verts, qui ne veut pas de ce modèle concentrationnel américain, même si malheureusement il inspire aussi les éleveurs européens. On va retrouver un nouvel invité, Olivier Lebeau, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes un spécialiste entre autres de cette question du droit animalier à l'échelle de l'Union européenne. Alors c'est vrai que l'Union européenne, elle a produit un certain corpus législatif assez fertile en matière de droit animalier. Dès le traité de Maastricht en 92, on a des éléments relatifs à la protection de l'animal d'élevage. Donc on voit que dès la mise en place du marché unique, on a des dispositions sur le droit animalier. Ce qui prouve peut-être que dans le droit européen, l'animal est d'abord et avant tout pensé comme une marchandise. C'est dans cette perspective que les premiers éléments de droit européen sont mis en place, Olivier Lebeau.
Oui, tout à fait. L'animal a principalement été envisagé sous l'angle d'une marchandise dans le cadre de l'Union européenne, même si, comme vous le relevez, dès le traité de Maastricht en 1992, une référence au bien-être de l'animal est apparue. Bon, initialement, cette référence ne figurait que dans une déclaration annexe au traité. Elle était donc purement symbolique, elle n'avait pas de portée contraignante ou normative pour les États. Il a fallu attendre le traité d'Amsterdam en 1997 pour que cette référence au bien-être de l'animal soit inscrite dans le traité sous la forme d'un protocole au traité, et ensuite il a fallu attendre le traité de Lisbonne en 2009 pour que clairement l'animal soit reconnu en tant qu'être sensible, doué de sensibilité à l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Alors on a un socle commun pour tous les États membres, mais il y a aussi de grandes disparités entre les différents pays. On a certains pays qui sont particulièrement en avance, on peut penser à l'Autriche, on peut penser à l'Allemagne, où on a par exemple des éléments sur la protection des animaux à l'intérieur même de la Constitution. Donc on voit tout de suite qu'en réalité il y a de grandes disparités au sein de l'Union européenne. Pourquoi ? Est-ce que c'est lié à des considérations historiques, culturelles propres, ou est-ce que ça révèle aussi peut-être de spécificités politiques et institutionnelles plus ou moins favorable justement à ces évolutions législatives? Comment comprendre cette disparité intra-européenne?
Alors je pense qu'il faut distinguer deux niveaux de législation. Vous avez évoqué la législation constitutionnelle, et en effet c'est à ce niveau-là que les différences entre les États sont les plus nettes. La différence est moins nette au niveau de la législation ordinaire. Dans les États, on retrouve peu ou prou les mêmes règles, la même qualification donnée à l'animal, celle de bien, celle de choses, avec des différences purement cosmétiques d'un pays à un autre. Globalement, on trouve deux formules au niveau de la législation ordinaire. Soit, c'est la première formule, la loi pose que l'animal est régi par des règles spécifiques et qu'à défaut de telles règles, il est soumis au droit des biens. Ou alors, on a une deuxième formule où la loi pose que l'animal est régi par le droit des biens, sauf dans le cas où une règle spécifique lui est applicable. Donc, on le voit, la différence est purement symbolique. Dans les deux cas, le droit des biens demeure le droit commun de la condition animale, c'est-à-dire la législation qu'on lui applique à défaut de textes contraires. Ce qui compte en réalité, ce n'est pas la qualification ou l'étiquette donnée à l'animal, mais les règles qu'on lui applique. Or, à cet égard, ces règles sont les mêmes partout, dans tous les États européens. L'animal est un bien, c'est un meuble, et en tant que tel, il peut être utilisé, il peut être vendu, il peut être détruit, servant alors, dans cette hypothèse, de matériaux ou de matières premières pour se vêtir, se nourrir, etc.
Mais alors ça, c'est la théorie, Olivier Lebotte, c'est la théorie législative. Mais est-ce que, par exemple, la directive européenne s'impose de la même manière dans tous les États membres? Ou est-ce qu'on voit quand même là aussi des nuances?
Alors, peut-être pour réagir à votre précédente question, si vous me permettez.
Je vous en prie.
Effectivement, plusieurs États, quatre États européens, inscrit l'animal au sommet de leur ordre juridique dans leur constitution, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche. Alors, vous m'interrogez sur les raisons qui expliquent l'introduction de ces dispositions au sommet de l'ordre juridique dans certains pays et pas dans d'autres. Alors, le fond commun, le fond théorique est le même dans tous les pays. Il s'agit de prendre en compte la sensibilité de l'animal en ajoutant une protection constitutionnelle à la protection législative, réglementaire et internationale qui existe déjà. Mais on observe, d'un point de vue plus pratique, plus empirique, qu'il a fallu des données circonstancielles, des événements particuliers pour introduire cette norme au sommet de la hiérarchie des normes. Alors, en Allemagne, le point décisif correspondait à l'ineffectivité de la loi sur la protection de l'animal à chaque fois que cette loi entrait en contradiction avec un droit fondamental. Lorsque cette loi entrait en contradiction avec la liberté de la recherche, avec la liberté des arts, avec la liberté universitaire, elle se trouvait systématiquement sacrifiée du fait de sa valeur inférieure. Le droit fondamental était protégé par la Constitution, l'animal uniquement par la loi, par conséquent, il cédait systématiquement devant les droits fondamentaux. Donc, cette situation a trouvé un point d'orgue en 2002 avec la décision du tribunal constitutionnel, la Cour de Karlsruhe, sur l'abattage rituel. Là, la Cour constitutionnelle a clairement indiqué que si l'animal avait bénéficié d'une reconnaissance constitutionnelle, il n'aurait pas donné la prévalence à la liberté religieuse sur la protection de l'animal.
Olivier Lebotte, encore une question et puis ensuite je passerai la parole à Florence Burga. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le dernier scandale sur l'abattoir de Pau. Dans ce cas, il y a eu un problème aussi d'application du droit. La réglementation européenne, elle prévoit qu'il y ait dans tous les abattoirs des représentants pour la protection animale. Dans ce cas, il y en avait un, sauf que il n'a pas alerté les autorités pour dénoncer les conditions illégales, pour le coup, d'abattage. Donc le problème, c'est moins un défaut au niveau de la loi elle-même qu'un problème dans son application. Ce qui manque, c'est le dispositif de contrôle, de surveillance qui permet justement de faire appliquer les textes.
Alors, une des caractéristiques du droit de l'Union européenne par rapport au droit international, c'est qu'il est très contraignant pour les États et que des mécanismes de contrôle et de sanctions existent. Le fait est toutefois que ces mécanismes sont parfois longs à se mettre en œuvre et qu'entre le moment où un manquement au droit européen est commis et celui où une sanction va intervenir, il peut s'écouler plusieurs années. Notamment, la Commission dispose de la possibilité d'introduire un recours en manquement contre l'État qui méconnaît ses obligations européennes. Et lorsque ce recours aboutit, l'État peut être condamné par la Cour de justice à des amendes très élevées. Notamment, il y avait une condamnation de la France en 2005 qui n'avait pas respecté la législation européenne sur les maillages des filets. Et la Cour de justice avait condamné la France à une amende de 20 millions d'euros et une astreinte de 60 millions d'euros par tranche de 6 mois de non-respect de la réglementation.
Bon, une condamnation, quand on voit les dérives, c'est quand même pas énorme. En revanche, effectivement, l'amende que vous mentionnez, c'est quand même une amende importante. Florence Burgard, je voudrais vous entendre justement sur l'évolution de ce droit européen en matière de droit animal.
On a le sentiment, moi je suis pas juriste, hein, mais on a le sentiment que le droit européen tire un petit peu les choses vers l'avant tout de même. En particulier, on a le cas de la directive 2010 sur l'expérimentation animale qui comporte des points extrêmement intéressants, puisque pour la première fois, il est écrit que l'objectif final de cette directive, c'est de remplacer les procédures utilisant des animaux par des procédures n'en utilisant pas. Donc ça rejoint un petit peu ce que nous disions tout à l'heure. Le législateur, d'une certaine manière, prend la mesure du fait que ce qu'il réglemente n'est pas légitime à un certain égard. Donc, il y a une avancée dans l'esprit de la loi, même si, comme le soulignait Olivier Lebeau, dans tous les pays du monde, au fond, quelles que soient les dispositions qu'on peut trouver dans les constitutions, l'animal est traité comme un bien.
Une autre question, Florence Burgard, parce que l'une des tendances qu'on note ces dernières années, c'est la montée en puissance du droit de l'environnement. On a des textes sur la protection des écosystèmes, et je mets des guillemets au sens extrêmement large, oui. On en voit, c'est des dispositions de plus en plus nombreuses, dispositions nationales et supranationales. Est-ce que c'est pas une évolution qui se fait aussi au détriment peut-être de la question de la souffrance animale? Est-ce qu'on pense la protection des espèces avant le droit animalier finalement?
Alors vous avez raison, elles n'ont rien à voir. Ce sont des questions qui n'ont absolument rien à voir. Du reste, c'est peut-être le moment de rappeler que les animaux sauvages en droit français, et pas seulement en droit français, ne sont pas protégés. Ce qui veut dire que quand un animal sauvage est protégé, c'est par ricochet, parce qu'il appartient à une espèce protégée, et que le souci pour les écosystèmes est absolument autonome, hein, au regard de la question de l'individu animal et de sa souffrance.
Merci beaucoup en tout cas à vous Olivier Lebeau d'avoir été en direct ce matin avec nous. Je rappelle constitutionnaliste et puis spécialiste entre autres de ces questions du droit animalier à l'échelle de l'Union européenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin Florence Burgard. Je voudrais qu'on continue sur des développements disons philosophiques contemporains. Quand on pense au droit animalier, au droit des animaux, on pense évidemment à Peter Singer, philosophe utilitariste australien, surtout connu pour ce livre La libération animale et qui est considéré comme l'un des fondateurs de ce mouvement des droits des animaux.
Philosophiquement, je ne suis pas un défenseur des droits des animaux, car je ne crois pas que le terme « droit » soit une terminologie appropriée pour penser cette question. Je la penserai donc en termes d'égalité entre êtres humains et animaux, mais selon un sens très spécifique, car encore une fois, il est évident que les hommes et les animaux ne sont pas politiquement égaux. Nous ne pourrions pas leur donner le droit de vote. Mais je pense que les animaux partagent indéniablement une certaine forme d'égalité avec les êtres humains. Et je pense là à leur capacité de souffrir ou au contraire d'apprécier leur existence. Je pense que cela doit nécessairement conduire à une égalité morale, puisque, selon moi, leur douleur doit compter tout autant que la douleur d'un être humain quand la quantité de douleur est similaire. Et inversement, leur plaisir compte tout autant quand la quantité de plaisir est similaire. C'est donc ce à quoi je m'oppose. Jeter avec mépris ou ignorer la douleur ou la souffrance d'êtres vivants juste parce qu'ils n'appartiennent pas à notre espèce. Et c'est en ce sens que je veux étendre l'égalité au-delà de la frontière de l'espèce. Beyond the species boundary.
étendre l'égalité au-delà de la frontière de l'espèce. Alors Peter Singer, c'est pas le seul justement à vouloir dépasser cette frontière de l'espèce. Vous évoquez un autre philosophe américain, en l'occurrence Tom Regan, qui est un spécialiste de philosophie morale, un théoricien des droits des animaux, qui avait écrit un ouvrage il y a quelques années maintenant qui s'intitulait « Les droits des animaux », qui était paru en 83. Pour lui, la théorie des droits des animaux se rattache au problème de la justice, je le cite, et non à celui de la compassion. Au fond, pour lui, penser le droit animalier s'inscrit dans une démarche plus globale de protection des plus faibles, qu'ils soient humains ou non humains. Voilà un peu la pensée de Tom Regan.
Oui, en effet, Tom Regan dit au début de son livre que c'est en réfléchissant au fondement des droits des plus faibles des humains qu'il découvre que ce fondement inclut aussi les animaux. Donc son concept majeur, hein, c'est celui de sujet d'une vie.
J'allais vous demander ce que c'est exactement, nous éclairer sur cette question-là.
Donc il y a une définition très très précise qu'il donne, hein, qui inclut donc, on peut dire que c'est une façon de remplir le concept de sensibilité de façon assez raffinée, le fait de vouloir, d'avoir des croyances, de tenir à son existence, de se projeter dans un certain avenir. Donc il y a toute une description, hein, qu'on peut ramener à l'idée d'une présence psychologique unifiée, hein. C'est la notion d'expérience, que le fait que les animaux sont évidemment présents à leur expérience, qu'ils sont sujets de leur expérience, que la vie qu'ils vivent est la leur et pas celle de quelqu'un d'autre, et que par conséquent, la façon dont elle se déroule leur importe. Alors la différence entre ce courant des droits des animaux représenté par Tom Regan, qui est un déontologiste, par opposition à celle de Peter Singer, qui est un utilitariste et qui, comme il le dit, n'emploie pas le langage des droits. Il y a donc des divergences philosophiques dans la façon dont ils procèdent, mais on peut dire que sur le plan pratique, leurs propositions sont assez proches.
On se dit parfois que le préjudice finalement commis envers les animaux d'élevage, bah, il n'est pas si grave que ça, puisque de toute façon, ils ne connaissent que la vie en captivité, qu'ils vont être envoyés extrêmement tôt à l'abattage, et que finalement, puisqu'ils ne connaîtront jamais la liberté, il n'y a pas de préjudice énorme. Ce que dit Regan, justement, c'est que le commage commis à leur encontre est double.
Oui, c'est très important, je crois, cette réponse qu'il fait. Il dit que c'est précisément parce qu'ils ne connaîtront jamais rien d'autre que nous leur portons un tort. Et il fait cette analogie, il dit, imaginons qu'on élève un enfant humain dans une pièce fermée, mais qu'on lui apporte tout le soin nécessaire, la nourriture, les médecins, enfin, etc. Le préjudice qu'on lui cause, et même s'il ne connaît rien d'autre, le préjudice qu'on lui cause, c'est précisément de l'empêcher de connaître autre chose. Donc les animaux ne peuvent pas évidemment développer leur vie, leur comportement dans les conditions qui leur sont faites en élevage. Et donc c'est une vision, je crois, tout à fait erronée de dire ils ne savent pas ce qu'il manque.
Parlons un peu, Florence Burger, de la question du spécisme. Ce qu'on appelle le spécisme, qui est un terme qui a été beaucoup popularisé par Peter Singer, c'est cette considération morale supérieure que les humains accordent à leur propre espèce, et le traitement évidemment discriminatoire qui en découle à l'encontre d'autres animaux. C'est ce principe selon lequel aussi les animaux de compagnie ou les animaux dont l'espèce est en voie de disparition mériteraient, disons, plus de soins et donc de protection juridique derrière que les animaux d'élevage. Vous consacrez toute une partie de votre ouvrage à cette question du spécisme et à la question des classifications. Je vous cite page 183. Les sciences juridiques et naturelles ont en commun le recours aux classifications. À défaut d'aimer sans condition les animaux, les sciences juridiques aiment les catégories. Celles-ci sont le résultat de l'application de deux critères. Le premier est celui de la faculté d'appropriation de l'animal, la proximité de ce dernier à l'égard de l'homme. Le second est la fonction de l'animal pour l'homme. Certains animaux sont utiles à l'homme, d'autres représentent un risque. Le premier critère permet de distinguer deux grandes catégories. D'un côté, les animaux domestiques et assimilés, et de l'autre, les animaux sauvages, bien sans maître pour le code civil. Et vous poursuivez quelques lignes plus loin. Pour autant, les classifications dont on vient de faire état sont arbitraires au regard de l'aptitude à ressentir la douleur ou le stress. La sensibilité et le bien-être sont en effet communs à de nombreuses espèces animales. Cet antispécisme, il est en train de prendre beaucoup de vigueur du côté notamment des États-Unis. C'est vraiment un mouvement qu'on sent beaucoup émerger outre-Atlantique, hein.
Oui, et il est d'autant plus important qu'il émerge outre-Atlantique que le législateur américain, si on peut dire les choses comme ça, a exclu de la définition de l'animal tous les animaux d'élevage. En effet, là, le passage que vous venez de citer, qui est un commentaire en fait de la façon dont le législateur considère les animaux, c'est-à-dire encore moins à partir de ce qu'ils sont eux-mêmes qu'à partir de la place qu'ils occupent dans le monde humain, hein, du type de relation que nous entretenons avec eux, ce qui est évidemment tout à fait discutable.
On va prendre la direction justement des États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez ce documentaire Unlocking the Cage, qui est un documentaire sur le combat juridique de Steve Weiss et son équipe juridique, le Non-Human Rights Project. Décembre 2013, il demande la libération de 4 chimpanzés au tribunal de New York. Alors le documentaire n'est pas encore totalement diffusé, mais on peut en voir déjà des extraits. Écoutez.
These animals are extraordinarily cognitively complex. So when you imprison a chimpanzee, the chimpanzee understands that tomorrow he's going to be in prison. And as far as he knows, it's not going to end. What we're trying to do is change the way people view non-human animals. Because right now, it's, are you a human? You have rights. You're not a human, you don't. And we're saying, that's wrong.
Voilà, donc Steve Weiss qui considère qu'il n'est pas normal que si vous êtes un animal, eh bien vous ne puissiez pas bénéficier de droits. Donc petit extrait de ce documentaire Unlocking the Cage, produit par Don Alan Penbaker et Chris Ekdus. Un documentaire qui relate cette croisade menée par cet avocat, Steven Weiss, et toute son équipe, le Non-Human Rights Project, pour transformer le statut légal d'un animal de l'état d'objet détenu de droit justement à celui de personne. On en parlait un petit peu tout à l'heure. On va retrouver un nouvel invité qui est avec nous à New York, c'est Nicolas Delon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'autant qu'il est très tôt chez vous, donc je vous remercie doublement. Vous êtes maître de conférence au département d'études environnementales de l'Université de New York et vos travaux portent sur l'éthique animale. C'est un documentaire qui a déjà un écho retentissant aux États-Unis. Alors, il n'est pas encore sorti, il va sortir sur HBO en juin prochain, mais on en parle déjà beaucoup, hein.
On en parle déjà beaucoup, oui. Alors, il y a déjà eu quelques premières, il a été présenté au festival Sundance, et on en parle aussi parce que Steven Weiss lui-même est déjà assez connu. Il y avait eu un portrait de lui dans le New York Times il y a quelques années. On sait de qui on parle, et puis c'est en particulier le cas à New York, puisque les procès que vous avez évoqués ont lieu dans l'État de New York.
Oui, c'est l'un des grands spécialistes des droits de l'humain aux États-Unis, Steven Weiss. Et son but, là, c'est de faire reconnaître que ces animaux sont des personnes au titre de ce qu'on appelle l'habeas corpus. Vous nous expliquez un peu en quelques mots?
Oui, alors, en gros, ce que Steven Weiss veut faire, c'est faire reconnaître par au moins un juge, je pense que ce sera le combat de sa vie, que au moins les membres de certaines espèces non humaines sont des personnes et non pas des choses, et que donc le critère de l'espèce ne devrait pas être un critère déterminant pour savoir si un individu devrait avoir ou non des droits. Alors que jusqu'à présent, il s'est heurté au mur de la part des juges et de la loi, d'après lequel cet être ne peut pas bénéficier des protections des personnes parce qu'il n'appartient pas à l'espèce humaine. Donc il a amené devant les tribunaux plusieurs cas de chimpanzés pour faire reconnaître cette personnalité juridique de l'espèce chimpanzé au titre de ses capacités cognitives.
Et évidemment, le simple fait qu'il puisse justement plaider devant des tribunaux, ça montre quand même que cette question, elle est prise très au sérieux aux États-Unis. À quand remonte justement l'émergence de ce concept de droit non humain aux États-Unis? Depuis quand il y a un combat juridique dans ce domaine-là?
Lui, ça fait quand même, je pense, une vingtaine d'années qu'il travaille là-dessus. Hein. Il a été le premier prof aux États-Unis à enseigner le droit animalier à l'université. Donc c'est un vieux combat pour lui, et je pense que sa victoire principale, beaucoup de gens sont pessimistes sur l'issue de ces procès, mais sa victoire principale, et si c'est la seule, ce sera déjà conséquent, c'est d'avoir été pris au sérieux par les juges, justement. Que des juges acceptent de passer du temps à considérer un writ of habeas corpus pour des chimpanzés, et à considérer l'éventualité de les libérer parce qu'ils auraient été détenus illégalement. Le simple fait que ce soit considéré sérieusement par des juges est déjà une belle victoire pour lui.
Alors, ce combat pour améliorer ce droit animalier, il n'est pas toujours évident. Il y a quelques années, il y a plusieurs États américains qui avaient cherché à limiter la possibilité de filmer des animaux dans les fermes d'élevage ou dans des abattoirs. Il y a un certain nombre d'États qui possèdent déjà ce genre de dispositif, l'Iowa, le Missouri, l'Utah, ce qu'on appelle les Ag-Gag Laws, pour dire en gros que ce sont des lois qui bâillonnent l'agriculture. Donc, en gros, les militants qui dénoncent ces pratiques en montrant ce qui se passe à l'intérieur d'établissements privés agricoles peuvent être accusés de terrorisme. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui justement de, est-ce que ces lois se sont au fur et à mesure étendues? Et de façon plus générale, racontez-nous peut-être les difficultés rencontrées par ces militants de la cause animale.
Alors, les gag laws alors, sont spécifiques aux États, donc tous les États des États-Unis déjà n'en ont pas. Elles ne s'appliquent pas de la même façon dans tous les États, mais elles avaient pour but de, en gros, rendre interdite la documentation, principalement sonore et filmée, de ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs. Récemment, en Idaho, un juge fédéral a juger la loi inconstitutionnelle. Donc, je ne suis pas sûr que les lois de ces États soient promises un grand avenir. Mmh. La deuxième raison, c'est que, d'un point de vue ne serait-ce que commercial, ça ne fait pas une très bonne pub à l'agriculture de que tout le monde sache qu'elle a des choses à cacher. Voilà.
Mais vous avez l'impression quand même que le lobby agricole est plus enclin, disons, à laisser des voix s'élever contre les pratiques de cette industrie. Vous avez l'impression que la pression est moins forte ou qu'elle est toujours aussi forte, au contraire?
Oh, elle est très forte. Ouais, les lobbies sont très forts. Ils sont en partie responsables du fait que les États-Unis ont réussi à considérer les groupes environnementaux et animalistes comme les principaux terroristes du pays. Donc, c'est pas rien. Non, ils sont inquiets. Ils sont inquiets, mais ils commencent, et ça, c'est très récent, à prendre en considération le fait que le consommateur, mais la société dans son ensemble, sont de plus en plus non seulement avertis, mais sensibles à ce qui se passe. Donc, comme toujours, de la part de l'industrie, elle s'empare aussi des opportunités en termes de nourriture végétarienne ou végétalienne. Elle essaye de tirer ça à son avantage. Mais ils sont quand même inquiets de ce que les militants ont à montrer, parce que les militants, un peu comme ce que fait L214 en France, continuent à diffuser des vidéos qui ont un impact très grand, et la consommation de viande baisse très doucement, très lentement aux États-Unis, mais elle baisse, de rien.
Nicolas Delon, encore un mot, et puis je passerai la parole à Florence Burga qui est avec nous en plateau. Mais vu d'ici, on a l'impression que le monde académique américain est en pointe dans ce combat pour le droit animalier. Il y a tout un champ académique très développé aux États-Unis qu'on appelle les Animal Studies. Pourquoi finalement les États-Unis sont aussi sensibles à cette question-là, et pourquoi le monde académique épouse cette préoccupation?
Alors, je pense deux raisons très rapidement. La première, c'est que on s'est intéressé à ces questions plus tôt, dans les années 70, en réaction à l'élevage industriel, un bouquin de Ruth Harrison qui s'appelait Animal Machines, et puis le bouquin de Peter Singer en 75, La libération animale. Donc tout ça a lancé dans le champ académique ces réflexions comme un sujet sérieux. La deuxième raison, c'est que les États-Unis sont un pays plein de paradoxes, et que c'est probablement le pays du monde où on traite le plus mal les animaux et en plus grand nombre. En même temps où les gens peuvent être le plus engagés sur ces causes, développer le plus de produits nouveaux et excitants pour les véganes, et où l'université accueille en son sein toujours de nouveaux champs de pointe. Voilà, peut-être un petit peu moins rigide que dans d'autres pays.
Et peut-être un petit peu moins rigide que chez nous en France, justement, Florence Burga. Et cette question, je vous la pose à vous. Est-ce que vous avez l'impression que l'université française arrive quand même à intégrer au fur et à mesure ces questions-là, ce qu'on appelle aux États-Unis les animal studies? Est-ce que vous sentez qu'elles émergent aussi dans notre monde académique à nous?
Oui, il est indéniable qu'elles émergent dans notre monde académique, même si elles ne sont pas encore constituées en corpus, qui pourrait être un équivalent des animal studies américaines. Les travaux universitaires sont aujourd'hui de plus en plus nombreux. Toutes les facultés de philosophie, ou presque en France, ont fait un colloque sur, disons, l'homme et l'animal, amenant l'ensemble de nos collègues, même si ça n'est pas leur champ de recherche, qui est le champ de recherche d'un certain nombre de personnes, mais pas énormément, à réfléchir à ces questions, éventuellement à prendre position. Donc il y a bien évidemment tout un éventail de positions, mais je dirais qu'au regard de la situation d'il y a une vingtaine d'années, où travailler sur ces questions était véritablement quelque chose qui vous fermait toutes les portes, qui était ridiculisé, qui était extrêmement mal vu. Aujourd'hui, la situation a évolué Et il y a de jeunes doctorants qui travaillent sur ces questions sans, je crois, que cela soit un obstacle à leur carrière.
Alors, vous restez avec nous, Nicolas Delon. Je voudrais que vous entendiez un petit son qu'on a préparé et qu'on va diffuser maintenant, parce que cette expression, elle est beaucoup dans l'air du temps en France, mais peut-être plus encore chez vous, outre-Atlantique, où il y a des niveaux, des très hauts niveaux d'intersectionnalité, comme on dit. Je parle de cette fameuse convergence des luttes, spécisme, sexisme, racisme. Est-ce qu'on peut tout combattre dans une seule et même lutte? On va retrouver Afko, qui est une blogueuse féministe afro-américaine, végane, donc qui ne consomme pas de viande ni aucun produit issu de l'exploitation animale, et qui s'est fait connaître après la publication d'un article intitulé « Reasons why animal rights are a feminist issue », qu'on pourrait traduire par « les raisons pour lesquelles, en gros, la question du droit animal est aussi une question féministe ». On va la retrouver, elle est au micro de Clément Salazar.
On peut tout à fait, je crois, créer un mouvement qui soit très intersectionnel, parce que l'on parle de plusieurs phénomènes concomitants. Je dis cela parce que l'oppression est déjà en soi la convergence de plusieurs systèmes qui entrent en collision. Mais bien que nos mouvements deviennent légèrement plus intersectionnels, certains restent encore très cloisonnés. Et ce que nous voyons aux États-Unis, c'est une sorte de clash entre une approche très monolithique de l'oppression des animaux, et je dirais même de toutes les formes d'oppression, et l'approche des spécialistes, et plus particulièrement les activistes noirs, qui abordent ces questions de façon plus holistique et intersectionnelle. Je dirais que le problème majeur en ce moment aux États-Unis des mouvements de défense, c'est qu'ils sont très blancs. Et je ne veux pas dire par là uniquement qu'ils sont composés de personnes de race blanche. Ce que je veux dire, c'est que la logique qui est mise en œuvre, qui les structure, obéit selon ce que j'appelle un GPS eurocentré. Et de fait, cette appréhension de l'oppression ne cadre pas avec la situation actuelle. La carte que l'on nous a donnée pour comprendre les manifestations de l'oppression ne correspond pas au paysage dans lequel nous évoluons. Ce n'est pas seulement une question de représentativité. Ce n'est pas seulement le fait pour les mouvements de défense des Noirs d'être plus visibles. C'est le fait que nous voulons aussi être producteurs de connaissances. Je ne suis pas en train de dire que les droits des animaux sont en soi un truc de blanc, mais reconnaissez avec moi que la représentation grand public des droits des animaux et du véganisme est très blanche, tout comme la logique derrière ces mouvements, où tout est cloisonné, isolé. Si vous voulez combattre le racisme, vous ne défendez que des questions de couleur de peau. Si vous êtes engagé dans un combat féministe, vous ne parlerez que de questions d'égalité de genre et on retrouve la même chose avec la défense des animaux. C'est un phénomène que l'on retrouve dans tous les mouvements de justice sociale. On parle typiquement de féminisme blanc. C'est devenu une expression consacrée aux États-Unis. Et moi, je prétends que cela ne marche pas forcément très bien. Pour moi, le racisme est étroitement lié au spécisme. Et ce que je cherche activement à faire, c'est aider de nombreuses communautés noires à reformuler leur oppression raciale sous l'angle du spécisme. Parce que ce n'est pas un hasard si dans notre société où des Noirs étaient et continuent d'être abattus et régulièrement traités d'animaux ou comme des animaux, les Blancs continuent d'utiliser des références tirées directement de l'esclavage pour tenter de faire un lien, une analogie forcée avec l'oppression des animaux, sans comprendre qu'ils auront besoin de véganes noirs pour que ce message trouve une résonance au sein de la communauté noire. Nous, nous comprenons ce que le racisme veut dire. Nous le vivons dans notre chair, mais nous pouvons aussi comprendre l'oppression des animaux. Nous pouvons aussi défendre les droits des êtres non humains. Nous devons être prêts à nous allier avec tout groupe dominé dont les droits sont bafoués aujourd'hui, afin, in fine, de renverser ce système.
Voilà, donc Afko, étudiante en philosophie, blogueuse et qui s'est fait connaître outre-Atlantique après la publication d'un certain nombre d'articles et toutes ses réflexions sur le racisme, le sexisme, le spécisme et cette nécessaire convergence des luttes. Florence Burga, le racisme est lié au spécisme, nous dit Afko, il faut décloisonner les différentes luttes. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça?
Alors, bien sûr, je pense qu'elle a raison de faire valoir la parenté, la même logique discriminatoire qui est à l'œuvre dans des systèmes de domination, d'exclusion, de stigmatisation. Dans le même temps, je crois que chaque question a sa singularité et que il faut peut-être mener les réflexions de concert. Et je crois que si on en reste au parenté de ces logiques, peut-être qu'on ne peut pas pousser jusqu'au bout les raisonnements et qu'il y a, je pense, des figures particulières, de la résistance animale, de la résistance au racisme, etc. Donc, Je crois aussi qu'après...
Mais donc, en gros, pour vous résumer, la convergence des luttes, d'accord, mais on peut pas tout mélanger, quoi.
Oui,
c'est ce que vous pensez.
Je dirais ça comme ça.
Nicolas Delon, votre avis depuis les États-Unis, je crois que vous la connaissez, parce que je crois qu'elle a donné une conférence dans votre université il y a quelques jours, AFCO, justement, Nicolas Delon.
Oui, vendredi dernier, je connais pas personnellement. Mais alors, c'est un sujet assez à la mode, je dis pas ça avec des connotations négatives, dans le monde anglo-saxon. Donc c'est un sujet qui est chaud chez les militants, mais qui commence à rentrer dans le monde académique. Je me range plutôt du côté de Florence Burga. Je considère que les différentes luttes sont distinctes, ont leurs valeurs propres, leurs méthodes propres et leurs objectifs propres. Je pense pas que dans tous les cas, parler d'intersectionnalité sera une mauvaise chose. Au contraire, ça permet de montrer que les cas de discrimination ou d'oppression de certaines catégories de gens doivent être conçus comme étant à l'intersection de différentes oppressions. C'est-à-dire qu'être une femme noire, c'est pas la même chose que d'être un homme noir.
Oui, donc vous êtes un peu de l'avis de Florence Burga, on peut pas tout mélanger.
On peut pas tout mélanger, mais je pense que l'intersectionnalité approche quand même, apporte une perspective intéressante pour faire reconnaître la spécificité de certains cas de discrimination. Certains cas de discrimination, voilà, pour montrer la spécificité de ce que c'est que d'être une femme queer noire aux États-Unis, par exemple, par rapport à un homme noir qui serait hétérosexuel. Et à l'inverse, un autre avantage, je pense que c'est que on permet de rassembler des gens qui n'auraient pas eu forcément grand-chose à se dire. On permet au mouvement antiraciste d'être un peu moins spéciste, et on permet au mouvement antispéciste d'être un peu moins raciste. Donc je vais être très lâchement normand ici.
Vous avez le droit. Merci infiniment, en tout cas, Nicolas Delon, d'avoir été avec nous ce matin, maître de conférence au département d'études environnementales de la New York University, depuis laquelle vous nous appeliez très tôt. Il doit être à peu près 5h50 chez vous, donc un grand merci de nous avoir appelé ce matin.
I went to the country to escape the noise and lights. And I laid there in the pine cones all night. I woke in the morning and all the trees were gone. I got this sinking feeling, everything felt wrong.
Et un grand merci à vous, Florence Burga.
Merci à vous.
De nous avoir éclairé sur ces questions ce matin. Je rappelle que vous êtes philosophe et que vous avez co-écrit cet ouvrage, Le droit animalier, qui est paru au PUF avec, on va les citer, Jean-Pierre Marguénot et Jacques Leroy. C'est une publication très récente, c'était au mois de février. Merci beaucoup, Florence Burga, de nous avoir accompagnés ce matin. Dans un instant, sur France Culture, c'est la grande table. On mettra évidemment les références de tous ces ouvrages sur le site, sur la page de Culture Monde, comme on le fait à chaque fois.